avec Adrien Taufollet pour le journal. Bonjour Adrien.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Oui ou non, faut-il obliger tout le monde à se faire vacciner contre le Covid? Le gouvernement dit non pour l'instant. En revanche, la pression grandit sur les soignants et les personnels d'EHPAD. Un projet de loi serait en préparation. Eux revendiquent encore leur droit à choisir, vous les entendrez. Au Royaume-Uni, après un vote du Parlement dans les prochains jours, la question ne se posera plus et on se prépare déjà à des démissions dans les secteurs concernés et des batailles juridiques. Dans ce journal également, Joe Biden qui fait son premier bilan économique très positif et vise le plein emploi pour la suite de son mandat. Le suspect du féminicide qui a eu lieu hier matin à Mérignac en garde à vue, les voisins de la victime sont sous le choc. Du football avec la déception de Kevin De Bruyne suite à la défaite de la Belgique hier contre l'Italie en quart de finale de l'Euro. Et puis le Tour de France dans les Alpes aujourd'hui pour la 8e étape et une course qui prend des airs de cours de récré. À 8h20 Eric.
Eh bien à 8h20 on va se demander à quoi ressembleront les vacances des Français. D'ailleurs de quel tourisme parle-t-on? Coincé entre deux vagues épidémiques, on va en parler avec deux invités. Jean-François Rial, il est président de Voyageurs du Monde, président aussi de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Et à ses côtés, il y aura Maria Gravary-Barbas, qui est directrice de l'équipe interdisciplinaire de recherche sur le tourisme.
France Inter.
Face à la menace du variant Delta, plus de temps à perdre. Le combat contre le Covid pourrait bientôt passer à la vitesse supérieure. Avec la vaccination obligatoire des soignants et des personnels de maisons de retraite, le Premier ministre Jean Castex en discutera avec les présidents des groupes parlementaires lundi. Un projet de loi serait en préparation et la contestation s'annonce. À l'EHPAD Lesbazeille de Mont-de-Marsan, si la vaccination des soignants rassure les résidents, l'obligation n'est pas du tout vue d'un bon œil, Stéphanie Hildebrandt.
Assise dans un fauteuil, Renée, 81 ans, discute avec d'autres résidentes et le débat sur la vaccination des soignants ne leur a pas échappé.
Elles sont en contact quand même de vieilles personnes. On est quand même vulnérables, hein, il me semble.
Les soignants ici, vous savez s'ils sont vaccinés tous?
Ben, y en a certaines qui m'ont dit que non. Mais moi, je trouve que ça devrait être normal.
C'est une responsabilité. En revanche, l'obligation, c'est hors de question.
Alors, on n'est plus en République. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. S'ils ne veulent pas être vaccinés, ils ne sont pas.
Un peu plus loin, Jean-Denis est venu rendre visite à sa maman Régine. Pour lui, la vaccination doit rester un choix personnel.
Chacun a sa conscience, quoi. Et voilà, moi personnellement, je fais confiance au personnel.
C'est justement par conscience professionnelle que Maryse, animatrice de l'EHPAD, s'est faite vacciner. Pourtant, si ça avait été une obligation, elle ne l'aurait pas fait.
Chacun a le droit d'avoir le choix. Si on oblige les gens, ça va faire boule de neige.
À l'EHPAD Lesbazeille, plus de la moitié des soignants sont vaccinés, assure la directrice Cécile Berthet. L'obligation, pourquoi pas, mais cette polémique tombe mal.
Ça a mis une défiance envers l'institution qui, je pense, est préjudiciable, en fait. C'est pas la peine de mettre ce climat de suspicion après derrière.
La meilleure stratégie reste la pédagogie, estime la directrice. Régulièrement, des campagnes de sensibilisation sont organisées auprès du personnel.
Il n'y a pas qu'en France que la question se pose. Le Royaume-Uni a un petit pas d'avance. Le Parlement doit prochainement statuer sur une obligation pour les personnels hospitaliers et d'EHPAD. Le texte devrait être voté sans difficulté dans les jours à venir puisque le gouvernement dispose d'une large majorité. Mais outre-Manche aussi, cette perspective fait débat. À Londres, les précisions de Richard Place.
Une fois la décision validée par le Parlement, les personnels visés auront 16 semaines pour se faire vacciner. Il faudra impérativement recevoir les deux doses. Ça concerne les soignants, mais aussi tous les intervenants réguliers, des coiffeurs, des bénévoles, des esthéticiennes. Sans immunisation, ceux-là ne pourront plus entrer et donc plus travailler. Les familles des résidents, les amis, les mineurs, les artisans qui viennent faire des travaux ne seront pas concernés. Le gouvernement a pris cette décision il y a 2 semaines et depuis, de nombreux directeurs de maisons de retraite alertent sur les conséquences. Dans un secteur où les salaires sont faibles et la main-d'œuvre rare, cela pourrait conduire à une pénurie d'employés. Certains ont déjà fait savoir qu'ils préféreraient démissionner que de se voir imposer le vaccin. Des avocats ont mis en garde également sur la validité juridique d'une telle obligation, ce qui bafouerait selon eux les droits individuels, promettant de longues joutes devant les tribunaux. Londres, Richard Place, France Inter.
À Surfside, en banlieue de Miami, les opérations de déblaiement laissent découvrir de nouvelles victimes dans l'immeuble effondré. Dernier bilan des autorités après la découverte de 4 nouveaux corps hier, 22 morts, 126 personnes toujours portées disparues et très peu de chances de retrouver des survivants plus d'une semaine après le drame.
Et toujours aux États-Unis, Joe Biden se jette des fleurs en faisant son premier bilan économique.
850 000 emplois créés le mois dernier contre un peu moins de 700 000 attendus par les analystes. Le président américain s'est s'est félicité hier du bon bilan de son administration. Il a également salué les très bonnes prévisions de croissance du FMI pour l'année en cours, même si le pays n'est pas encore totalement remis de la crise du Covid. Loïc Lory.
It is a good morning.
Un Joe Biden tout sourire à la tribune. La matinée est bonne, dit le président américain au moment de commenter les derniers chiffres de l'emploi. Nous avons créé plus de 3 millions d'emplois depuis que je suis à la Maison-Blanche. Jamais dans l'histoire moderne, autant d'emplois n'avaient été créés lors des 5 premiers mois d'une présidence. C'est un progrès historique. Nous sortons notre économie de la pire crise connue depuis 100 ans. Une emphase à la Donald Trump, d'autant plus que la croissance outre-Atlantique pourrait atteindre les 7% cette année. Selon le FMI, un record depuis 1984. Tout pour autant n'est pas rose. Il y avait 7 millions d'emplois en plus juste avant la pandémie et le chômage touche durement les Noirs et les Hispaniques. Les postes les moins qualifiés ne trouvent pas preneur, faute de salaire suffisant. Un point sur lequel Joe Biden préfère voir le positif. Au lieu d'avoir des travailleurs en compétition pour de rares emplois, ce sont les entreprises qui bataillent pour attirer de la main-d'œuvre. Ça donne aux employés la possibilité d'avoir des salaires plus élevés et le pouvoir de demander à être traité avec plus de dignité et de respect. Nous visons désormais le plein emploi, assure le président, qui espère voir son plan d'infrastructure à 1200 milliards de dollars voté au Congrès. New York, Loïc Lory, France Inter.
Des feux de forêt ravagent la Californie en ce moment. 15 000 hectares partis en fumée ces derniers jours. Des feux d'origine accidentelle, mais alimentés par la hausse des températures, la sécheresse et les vents. Un peu plus au nord, au Canada, on compte maintenant 152 feux actifs. Le Premier ministre Justin Trudeau promet des renforts de pompiers et de secours. La Colombie-Britannique, dans le même temps, est toujours balayée par une vague de chaleur mortelle. Il y a eu 3 fois plus de décès en une semaine que la normale, déplorent les autorités. Et puis au Japon, pas d'incendie, mais des glissements de terrain ce matin causés par des fortes pluies. 19 personnes pour l'instant sont portées disparues.
En France, c'est le 58e féminicide depuis le début de l'année.
Et un scénario hélas bien trop connu. Une femme de 31 ans, tuée à coups de couteau hier matin à Bordeaux, mère d'une petite fille de 4 ans qui s'était séparée de son compagnon, qui la violentait. Elle avait porté plainte contre lui pour harcèlement à la mi-juin. Un contrôle judiciaire lui interdisait d'entrer en contact avec elle. Principal suspect du meurtre, l'ex-compagnon s'est retranché chez lui juste après les faits. Le RAID est intervenu. Il est maintenant en garde à vue et depuis, les voisins de la victime comme de l'homme, bien au courant de leur situation personnelle, ne cachent pas leur colère, Clémentine Vergniaud.
À commencer par ceux de la rue Émile Combes à Mérignac qui voient et entendent surtout débarquer le RAID en fin de matinée dans ce quartier que cette habitante qualifie de petit Versailles.
C'est pas possible ça, c'est pas concevable. Elle avait porté plainte et puis on fait en arriver là quoi. Il faut mourir avant qu'on vous aide, c'est pas possible.
À quelques rues de là, le minuscule pavillon dans lequel vivait Sandra, pas de nom sur la boîte aux lettres, un interphone avec une caméra, une autre qui couvre le jardin, autant d'indices qui laissent deviner l'enfer qu'elle subissait. Beaucoup de riverains ont essayé de faire bouger les choses, comme ce voisin.
Dans le quartier, il y a des voisins qui ont fait des mains courantes vis-à-vis du mari sur harcèlement, violence. On leur a dit que cette personne qu'elle sortait de psychiatrie, qu'elle était dangereuse. Mais regardez, elle est morte, la dame. Donc ça sert à quoi de faire des mains courantes, de porter plainte, s'il ne se passe rien, en fait. C'est ça qui est ralent.
Ce n'est qu'il y a 15 jours que Sandra finit par porter plainte pour harcèlement. Son ex reçoit une convocation devant le tribunal pour novembre et a interdiction d'entrer en contact avec elle. Ça semble calmer le jeu, raconte Nicole, une voisine qui l'a vue jeudi soir.
Quand je lui ai demandé si ça avait l'air de s'apaiser, elle m'a répondu que oui. Donc, je suis très très choquée.
Une version confirmée par l'école de la petite fille. La mère semblait moins stressée.
Une mise en examen hier soir pour meurtre pour les deux agents de la brigade de sûreté de la SNCF. Intervenus sur une attaque en gare d'Ermont-Aubonne dans le Val-d'Oise, c'était mercredi après-midi. Ils ont ouvert le feu et tué un homme qui menaçait les usagers avec un couteau. Un juge d'instruction doit maintenant déterminer si les deux hommes ont agi de façon légitime et proportionnée.
Le fabriqué en France s'expose à l'Élysée.
Après le succès de la première édition en janvier 2020, les ors de la République mettent à l'honneur des produits triés sur le volet, fabriqués par des entreprises, artisans, producteurs et industriels engagés dans la fabrication française. 126 sont exposés tout le week-end dans le palais de l'Élysée. Ça va de la lentille du Puy en Haute-Loire au parfum Fragonard de Grasse dans les Alpes-Maritimes en passant par les bottes Aigle fabriquées dans la Vienne et les vélos Look de Nevers dans la Nièvre. Valoriser le fabriqué en France, c'est le but de cette exposition ouverte au public. C'est une question d'emploi, de souveraineté et d'indépendance de la France. C'est Emmanuel Macron qui l'a expliqué à l'inauguration hier soir, Manuel Ruffez.
Il est en train de prendre des photos, Guillaume de Guéry, le directeur international de Metaluplast, une société basée à Caen. Et il a raison, ce n'est pas tous les jours qu'il verra son produit phare, l'abri de touche VIP, celui des stades russes de la Coupe du Monde de foot 2018, trôner ainsi au milieu du jardin de l'Élysée.
Ça fait plaisir. Ça a été beaucoup de travail, de développement, beaucoup de sacrifices pour arriver à le placer dans des belles compétitions. C'est pas forcément tous les jours facile de garder les fabrications en France par rapport à toutes les concurrences qu'on a. Nous, on y arrive encore pour l'instant et on a des belles perspectives et du coup, on est très, très, très fiers et très contents d'être là.
126 produits, ce sont 33 000 emplois en France, a souligné Emmanuel Macron, pour qui le fabriqué en France n'a rien d'un repli sur soi.
Le fabriqué en France, c'est la vision d'un patriotisme conquérant et pas d'un nationalisme étriqué, qui consiste à dire il y a encore de l'avenir pour l'agriculture, l'industrie, la production sur notre sol, si on sait s'en donner les moyens. Mais à la clé, c'est aussi un peu plus d'indépendance et de souveraineté pour nous.
Et s'adressant aux entrepreneurs présents, Emmanuel Macron a promis de continuer à les soutenir en affirmant que malgré la crise sanitaire, jamais depuis 15 ans, autant d'offres de CDI n'avaient été publiées qu'au mois de mai dernier.
Une nouvelle candidature à la présidentielle de 2022, Jean-Marc Governatori, co-président du parti Cap Écologie, proche de Corinne Lepage, un nom familier en PACA, candidat au régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur, éliminé au premier tour, une candidature écologiste, la quatrième donc pour la primaire, mais plus à droite que ses adversaires Sandrine Rousseau, Éric Piolle et Yannick Jadot. Le Rassemblement National en ordre de bataille, le parti se rassemble pour un 17e congrès à Perpignan aujourd'hui, seulement une semaine après la défaite au régional, cap sur l'objectif suivant, la présidentielle. Les militants doivent voter pour changer les statut du parti pour permettre le retrait de Marine Le Pen de la présidence le temps de la campagne et la mise en place de son intérim. Louis Alliot et Jordan Bardella sont dans les starting blocks.
Et à 8h12, on part sur la route du Tour.
La 8e étape du Tour de France aujourd'hui et les coureurs arrivent dans les Alpes, 150 km entre Oyonnax et le Grand Bornand, avec trois ascensions de première catégorie au programme. Le Néerlandais Mathieu Van Der Poel est toujours en jaune. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Chaque jour vous tenez la chronique de ce Tour, une édition dynamitée par une bande de gamins à vélo.
Et ces jeunes ne respectent rien. Hier, au lendemain d'une étape disputée à 48 km/h de moyenne, on s'attendait à voir le peloton souffler. Rien à faire. Dès les premières minutes, Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert, sourire aux lèvres, décident de s'expliquer, comme ils le font sur les circuits de cyclocross de Belgique depuis qu'ils ont 8 ans. Résultat, 250 km de bagarre, des coureurs éparpillés aux quatre coins de la Bourgogne et des anciens comme Roglic et Froome à l'agonie. Le vainqueur du dernier tour, Tadej Pogacar, 22 ans, ne dépareille pas. Hier, son équipe, piégée par l'échappée, a dû rouler toute la journée. Lui l'a passé à se marrer devant les caméras avant de faire le pitre à l'arrivée. La pression glisse sur cette nouvelle génération. Dimanche dernier, dans l'ascension de Mur de Bretagne, au plus fort de la bagarre entre favoris, le Breton David Gaudu s'est payé le luxe d'un petit coucou de la main à ses copains sur le bord de la route. La scène filmée a fait sa fierté. Avec eux, le Tour est redevenu un jeu, un espace de liberté où tout est possible. Ce qui ne veut pas dire que tout est permis. Être jeune, surtout quand on est coureur cycliste, n'interdit pas d'avoir de la mémoire.
Jérôme Cadet en direct depuis les Alpes, juste avant cette 8e étape du Tour de France. Donc, l'actualité sportive, c'est aussi du football aujourd'hui, hier même, avec une incroyable équipe d'Italie qui s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro. Victoire à Munich, 2-1 contre la Belgique. Les Italiens affronteront l'Espagne mardi à Londres. En revanche, c'est une énorme désillusion pour les Belges, 3 ans après leur 3e place au Mondial. Malgré le talent, malgré les stars, cette génération n'arrive pas à remporter de trophée. Et ce n'est pas faute d'essayer, se justifie le milieu de terrain Kevin De Bruyne. On l'écoute.
Les supporters, ils ont vu qu'on a essayé de tout faire, on voulait gagner. Je sais que tout le monde est déçu, mais on a pris la responsabilité et on va essayer le prochain fois. On a essayé de tout faire et je sais il va y avoir des gens qui vont être fâchés avec nous, qui sont déçus, mais on a essayé. Et à la fin, la différence est minimale dans ce tournoi et ouais, je pense qu'on a eu un peu trop de problèmes dans l'équipe pour être à 100%. J'ai essayé de tout faire pour l'équipe et ça c'est le plus important.
Kevin De Bruyne au micro de Jérôme Val. Les deux autres quarts de finale aujourd'hui, République Tchèque, Danemark, c'est à 18h et puis il y aura Ukraine, Angleterre, ce sera à 21h.
Eh bien voilà, nous savons tout. Merci Adrien Toffolet. Le temps de ce samedi.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Avec des averses et des orages, Jean-Michel Golinski.
Après une trêve de 2 jours, les averses et les orages reprennent du service, n'épargnant aujourd'hui que le bassin méditerranéen. Mais ailleurs, l'instabilité déjà présente ce matin sur les régions de l'Ouest va gagner en journée vers la Belgique et les frontières de l'Est, donnant un pêle-mêle d'averses et d'orages, avec de plus fortes pluies en prévu entre le Sud-Ouest, le Massif central, les Vosges et les Alpes. Avec cet après-midi, des températures de saison de l'ordre de 20 degrés le long de la Manche, à 30 à Nîmes, à Perpignan et Marseille, en passant par 28 à Toulouse, 27 à Strasbourg, 26 à Lyon et 23 à 25 degrés du nord de la Loire à la Belgique. Demain, persistance du temps pluvieux-orageux avec là de fortes précipitations entre le nord de la Loire et les Ardennes et près des frontières de l'Est, dans une ambiance souvent bien plus fraîche qu'aujourd'hui.
Jean-Michel Golinski, Météo France.